Suivez Priorité Santé avec Suno Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner dans les moments difficiles.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Il n'est pas toujours évident de savoir ce qui se cache derrière certains sigles, certaines initiales que l'on retrouve dans des publications, sur des affiches ou même sur les façades de certains centres de santé. Ces organismes financent pourtant des projets bien concrets, des initiatives de santé dont bénéficient des populations parfois loin, très loin du siège de ces agences. C'est le cas de l'ANRS, initialement simplement Agence Nationale de Recherche sur le Sida, puisque cet organisme a précisément vu le jour en 1988, alors que le virus du Sida avait été découvert seulement 5 ans auparavant et que la pandémie explosait. Et cette agence de recherche, compte tenu de l'importance des autres infections sur le plan de la santé mondiale, a depuis étendu son champ d'expertise aux hépatites virales, aux IST, à la tuberculose et aux maladies émergentes, dont le Covid-19. Mais aujourd'hui, retour aux fondamentaux, à l'approche de la journée mondiale du 1er décembre, en nous arrêtant sur des stratégies développées par des chercheurs et des acteurs de santé à l'international, en particulier en Afrique, région où vivent 2/3 des personnes porteuses du VIH. Des projets animés par une triple exigence en matière de soins, d'éthique et de recherche. Prendre en charge, respecter, comprendre, pour que ces avancées puissent bénéficier à terme au plus grand nombre. Lutte contre le sida, des projets de recherche de l'ANRS à l'international, recherche et expérience de terrain, surtout double approche, qui a toujours été la vôtre. Joseph Larmarange, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes démographe en santé publique à l'Institut de recherche sur le développement, l'IRD. Vous co-présidez le comité scientifique santé publique, sciences humaines et sociales au sein de l'ANRS maladies infectieuses émergentes. Et vous êtes aussi, Joseph Larmarange, actuellement engagé sur le projet ANRS Princesse. Vous nous direz de quoi il retourne dans quelques minutes. En Guinée, on va retrouver tout à l'heure le docteur Yalikhatou Camara, pédiatre au sein du CHU Niasdine de Conakry, où elle a participé au projet Diavina auprès des mères séropositives et de leurs enfants. Offre de dépistage et de soins qui correspondent aux réalités au-delà des tabous. On va donner la parole à Calliste Alomniomnier, biochimiste, spécialiste d'éthique au sein de l'association du collectif REDS du Cameroun. Une lutte contre le sida en phase avec les droits de la personne. On abordera avec lui l'étude NAMSAL, stratégie thérapeutique sur les femmes. Et puis enfin au Sénégal, c'est Fatoumata Anne, socio-anthropologue de la santé, qui a travaillé sur la prise en charge et l'amélioration des thérapeutiques destinées aux ados, aux adolescents. Projet centré sur la prévention, l'éducation à la sexualité et bien sûr toujours l'accès à la santé.
Priorité santé sur RFI.
Donc cette stratégie mondiale de lutte contre le sida qui concerne chacun, chacune d'entre nous, aujourd'hui, coup de projecteur sur quelques-uns des nombreux projets portés par l'ANRS. On va le voir tout au long de cette émission. On va aller en Guinée, on va aller au Cameroun, on va aller au Sénégal. Joseph Larmarange, premier point essentiel, ces projets, ils sont conduits par et avec des chercheurs des régions concernées.
Oui, à l'ANRS, c'est même une obligation. Il est impossible de monter un projet dans un pays du Sud sans qu'il y ait des chercheurs du pays qui soient impliqués, de la même manière qu'aucun projet ne peut être mené sans qu'il y ait des autorisations éthiques des pays dans lesquels les projets sont menés. Et puis de plus en plus se développent des recherches communautaires qui se font avec des acteurs non académiques, des associations, des ONG, des bénéficiaires qui participent aux recherches.
Et on va en avoir l'illustration concrète. Alors évidemment, quand on parle de lutte contre le sida, on pourra en parler toute la journée. Dépistage, accès au traitement antirétroviraux, prévention de l'infection chez les adolescents, chez les jeunes femmes, chez les nouveau-nés, contrôle de la charge virale, accès aux populations, la stigmatisation, il faut toujours en parler. Autant d'éléments sur lesquels on va revenir avec des exemples. Mais on va le voir dans cette région Afrique, il y a beaucoup de projets, des projets très différents. Mais quand on parle de nouvelles stratégies, maintenant il y a des décennies d'épidémies, de pandémies derrière nous. Joseph Larmarange, qu'est-ce que ça veut dire concrètement quand on dit nouvelle stratégie de lutte contre le sida? On imagine qu'on n'a quand même pas enterré les fondamentaux, hein. Dépistage précoce.
On n'a pas enterré les fondamentaux, c'est le dépistage et le dépistage précoce. Et là, il y a des nouveaux outils, comme les autotests de dépistage, qu'on connaît mieux depuis la Covid, hein, sur ce que c'est qu'un autotest. On a le retour au traitement. On sait depuis 15 ans, même si ce n'est pas connu par le grand public, qu'une personne infectée qui prend un traitement et qui a une charge virale contrôlée ne transmet pas le virus. Mmh. Et le meilleur moyen de stopper l'épidémie, c'est de dépister, traiter les personnes. Et puis, il y a des nouveaux outils qui arrivent dans la prévention avec la PrEP, mais aussi dans le traitement, avec l'arrivée maintenant de traitements qui sont sous forme injectable, une injection tous les 2 mois, ça évite le cachet quotidien, et peut-être d'autres formes qui vont arriver d'ici 4-5 ans, avec des injections tous les 6 mois ou des implants de 12 mois.
Alors, PrEP, prophylaxie pré-exposition, on va y revenir tout à l'heure pour expliquer exactement ce que c'est. On va parler d'études, et c'est important de le souligner, ce n'est pas des approches théoriques, mais ce sont bien des projets concrets. Vous parliez tout à l'heure de la communauté, c'est essentiel. On voit ce qui marche, on voit ce qui freine, on voit s'il y a des ajustements possibles, on enregistre. Et c'est vrai que souvent, Joseph Larmarange, c'est plutôt différent de l'image qu'on se fait du chercheur éloigné du terrain, qu'on pense qu'il n'a pas de prise finalement avec la réalité. Et là, c'est différent pour tous ces projets qui sont développés et dont on va parler.
Oui, parce que si on a une recherche translationnelle qui part de la recherche fondamentale et puis on va traduire ça avec des nouveaux outils qui sont efficaces, on fait des essais cliniques, mais une fois qu'on a l'outil, comment on le met en œuvre? Et dans la vraie vie, on a besoin d'une science de la mise en œuvre, de recherche opérationnelle, parce que si les outils sont pas mis en... On ne tient pas compte des contraintes sociales, des contraintes culturelles des populations. On pouvait avoir un très bon outil, il ne sera pas utilisé et on n'aura pas d'impact de santé publique. Donc on a de plus en plus dans le VIH le besoin d'aller vers une recherche qui s'intéresse à comment faire.
Et ça va dans les deux sens. Alors on va s'intéresser justement à ces projets à l'échelle internationale, des initiatives dans la zone de l'Afrique subsaharienne. Est-ce qu'à chaque fois, Joseph Larmarange, ces projets sont limités dans l'espace, dans le temps, avec une population ciblée bien précise, pour comprendre un peu de quoi on parle au niveau du cadre?
Alors, tout dépend des projets et du montant de financement. Quand on est sur des projets financés purement par la recherche, comme la NRS, nos budgets, en général, font qu'on va se limiter à une seule population ou à une zone ou à juste quelques sites d'intervention. On a d'autres types de projets maintenant un peu intermédiaires, notamment avec ce que finance United. United, on est sur des projets à plusieurs millions de dollars. C'est des projets de mise en œuvre portés par des acteurs de mise en œuvre dans lesquels on va avoir une composante recherche. Et du coup, on n'est plus sur la même échelle. C'est des projets de moyenne ampleur. Mais forcément, la question du financement limite la taille. Et quand on est sur des choses très innovantes, on expérimente à plus petite échelle.
Alors, à titre personnel, vous travaillez sur le projet ANRS Princesse, notamment en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez nous décrire simplement qui sont, dans un premier temps, les populations concernées, comment ça s'organise?
Alors, le projet Princesse, il a été développé pour des femmes travailleuses du sexe dans la région de San Pedro en Côte d'Ivoire. Donc, c'est une région rurale avec un des plus grands ports d'exportation café-cacao. Donc, une forte migration et des travailleuses du sexe qui sont très mobiles. Au départ, on nous a dit qu'il faut faire un projet de PrEP pour cette population-là. Et on a eu une première recherche.
Donc, on y revient, la PrEP. On va expliquer ce que c'est. Oui. Donc, c'est un traitement qui est pris avant, on va dire, le rapport, tout simplement.
Alors, c'est un traitement préventif. Pour les femmes, on prend un cachet par jour et ça protège du VIH. Mmh. C'est la même chose qu'on a pour le paludisme avec les voyageurs qui vont prendre un cachet tous les jours pour éviter d'attraper le paludisme.
Ça veut dire qu'on prend un traitement, y compris, bien sûr, quand on n'est pas infecté. C'est ça la question.
C'est un traitement pour des personnes qui ne sont pas infectées. Mmh. Pour empêcher qu'elles ne s'infectent. Mmh. Mais ça change le rapport, parce que pour les personnes non infectées, c'est difficile de s'engager dans un suivi régulier. Or, pour la PrEP, on essaye de voir les personnes tous les 3 mois.
Est-ce que ça veut dire que c'est pour les personnes qui ont des difficultés, ou même quand on parle de travailleuses du sexe, quand les clients font obstacle, par exemple, à l'usage du préservatif?
Alors, pour nos travailleuses du sexe, on a fait de la recherche préliminaire avec elles pour voir les obstacles. Mmh. La majorité d'entre elles utilisent le préservatif la plupart du temps. Mmh. Sauf qu'il y a des situations où elles ne peuvent pas. C'est le cas du partenaire régulier ou petit copain qui est souvent le mac avec qui elles ne peuvent pas négocier. Il y a quelques clients violents, il y a des clients qui sont prêts à payer beaucoup plus. Et donc, même si c'est qu'une petite proportion de leur rapport sexuel où il n'y a pas de préservatif, ça suffit à les exposer de manière importante parce qu'elles ont beaucoup de rapports.
Et c'est là où on comprend vraiment que la recherche, y compris les médecins, y compris des personnes qui, on pourrait croire, sont éloignées de la réalité, s'adapte totalement aux obstacles, aux réalités sans tabou. Et ça, c'est essentiel. On ne passe pas, il n'y a rien qui passe, on va dire, entre les grilles de la raquette.
Non, alors là, dans le cas présent, en fait, le projet Princesse, ce n'est pas un projet PrEP. On est parti d'une demande de PrEP. Mmh. Et puis, on a fait une recherche, on voit, elles ont des grossesses non désirées, elles ont des infections sexuellement transmissibles, elles n'ont pas d'outils pour gérer leur menstruation. On a des femmes qui sont séropositives, qui ont aussi besoin d'outils de santé sexuelle. Mmh. On a des femmes qui ont l'hépatite B. Or, c'est le même médicament pour la PrEP et l'hépatite B, sauf que ce n'est pas financé, l'hépatite B. Donc, Princesse, c'est un projet qui sont des cliniques mobiles directement sur les sites de prostitution, mais on a la prise en charge du VIH pour celles qui sont séropositives, une PrEP pour celles qui sont séronégatives et qui le souhaitent, ce n'est pas obligatoire, des offres de santé sexuelle, un dépistage SIST, la contraception gratuite, des coupes menstruelles. Donc l'idée, c'est d'avoir une offre large, en se disant, si on a une offre large, peut-être qu'on va avoir plus de personnes qui participent. On a levé certains obstacles, je dirais nos résultats, ils sont demi-teinte. Pour certaines, c'est vraiment une offre qui marche bien et on pourra en discuter. Pour d'autres, il y a encore d'autres obstacles et qu'on n'arrive pas encore totalement à prendre en compte.
Alors, vous travaillez sur un autre projet, on va en parler tout à l'heure, mais tout de suite, on part pour la Guinée.
RFI à Conakry, 89.9 FM.
Et c'est une pédiatre que nous retrouvons en ligne. Docteur Yaliratou Camara, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous exercez au CHU Ignace Dine. Vous êtes aussi coordinatrice du centre de traitement ambulatoire des personnes vivant avec le VIH-Sida, spécifiquement des enfants concernés. On parlera donc, pendant cet entretien, on l'a compris, d'une question essentielle, la transmission de la mère à l'enfant. Il y a eu des progrès énormes dans ce domaine au niveau international, même si l'essentiel des enfants qui naissent encore avec le VIH, eh bien 90% d'entre eux naissent en Afrique subsaharienne. Pour expliquer aux auditeurs, le plus simplement possible, docteur Camara, aujourd'hui, quand une maman séropositive ou infectée par le VIH est sous traitement et qu'elle a une charge virale indétectable, son bébé peut être protégé de l'infection, c'est ça?
Oui.
Ça veut dire qu'il faut que les mamans soient dépistées et traitées?
Oui.
Alors, détaillez-nous, oui, au-delà de ce oui, ce projet Diavina, sur lequel vous avez travaillé, pour expliquer le plus simplement possible de quoi il s'agit.
Oui, d'accord. Merci de m'avoir donné la parole. En fait, le projet Diavina, entendait diagnostic virologique et initiation au traitement VIH chez les enfants à haut risque de transmission mère et enfant de sida. Donc, c'est un projet qui a été mis en œuvre par SOFTIS, le Programme national de lutte contre le VIH, et la Fédération Espoir Guinée, dans les services de maternité et de pédiatrie du CHU Ignace Dine. L'objectif principal de ce projet était de dépister toutes les femmes qui venaient en salle d'accouchement et de démontrer la faisabilité d'une stratégie associant un traitement antirétroviral chez les enfants nés de mères séropositives et le diagnostic précoce chez ces enfants.
Je vous arrête, docteur Camara. Justement, vous dites qu'il y a eu un dépistage systématique. Est-ce que ça vous a permis d'avoir des chiffres en ce qui concerne la prévalence du VIH dans cette région de Conakry chez les femmes que vous preniez en charge?
Oui, effectivement. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en Guinée, malgré une importante décentralisation de la prise en charge de la prévention de la transmission de la mère à l'enfant du VIH-Sida et l'intégration des recommandations internationales de l'OMS, il y a beaucoup de femmes qui restent encore non dépistées dans nos structures de santé. 37% de l'ensemble des femmes enceintes et 66% de celles qui viennent en consultation prénatale bénéficient quand même du dépistage pendant la grossesse. Mais seulement 11% des nouveau-nés exposés bénéficient d'un dépistage précoce, ce qui est très peu. Et parmi ces enfants dépistés, seulement 39% de ces enfants dépistés sont mis sous traitement ARV, alors que le traitement est disponible dans le pays. C'est ça, en fait, le paradoxe.
Oui, mais vous ne m'avez pas répondu sur la prévalence des femmes. Est-ce que par rapport à celles qui passent par votre service, vous avez des statistiques pour savoir si, eh bien, ces femmes sont finalement, à l'échelle d'une zone comme celle de la capitale de la Guinée, nombreuses à être touchées par le VIH-Sida?
Bien, le problème, c'est que les femmes chez nous, les femmes qui viennent chez nous, généralement ne connaissent pas leur statut.
Donc, il y a ce problème à la base du dépistage, c'est ça?
À la base du dépistage. Et c'est en salle d'accouchement que certaines se rendent compte de leur statut sérologique, qu'elles sont positives ou négatives.
Et on imagine qu'à ce moment-là, c'est un véritable choc. J'imagine qu'il y a tout un travail, justement, sur l'explication, l'acceptation. On est là pour donner la vie, on s'aperçoit qu'on a un problème de santé qui peut avoir des conséquences importantes. Comment est-ce que ça se passe?
Oui, c'est là qu'interviennent les agents psychosociaux. Dans le counseling pré-test et post-test. Et ces agents psychosociaux nous aident quand même à accompagner les femmes dans la prise en charge psychologique et sociale. Le rendu du résultat.
Ça veut dire qu'il y a une formation spéciale qui a été préparée, instituée?
Oui, oui. Il y a eu des agents qui ont été formés pour cela, pour ce travail. Il y a eu une équipe qui a été mise en place pour la prise en charge de ces femmes et le dépistage et la prise en charge de ces nouveaux-nés qui naissent de ces femmes séropositives.
Alors, il y a toutes ces initiatives, on comprend tous ces efforts qui sont faits avec ce projet Diavina, docteur Camara. En termes de résultats de cette étude, qu'est-ce que vous pouvez nous dire précisément?
En termes de résultats de cette étude nous a permis de faire la mise en œuvre d'une recherche quand même opérationnelle dans un pays à ressources limitées comme la Guinée. Hein? Ça a permis de réduire, d'améliorer le taux de dépistage des femmes enceintes infectées par le VIH. Ça nous a permis aussi d'obtenir une certaine rétention du couple mère et enfant dans le système de santé. Parce que quand les femmes sont dépistées avec leurs enfants, elles sont suivies dans le système. Depuis qu'on a commencé le Diavina et jusqu'à maintenant, il y a des femmes qui ont fait leurs 2-3 enfants, tous négatifs.
Donc parce ça, c'est vraiment un succès pour l'équipe qui engage justement tous ces efforts de dépistage, pouvoir mettre les mamans sous traitement et éviter donc cette transmission de la mère à l'enfant. C'est absolument essentiel.
Oui, oui. Ce qui est important aussi, ça a permis de réduire drastiquement le taux de mortalité et de morbidité chez les enfants diagnostiqués et suivis.
Ça veut dire des mamans en meilleure santé et des enfants
des mamans en meilleure santé,
des enfants qui naissent en parfaite
santé, absolument. Plus que les enfants qui ne sont pas suivis pour le VIH. Ça, nous avons remarqué ça dans notre étude.
Donc
ça a aussi permis de mesurer l'acceptabilité de la stratégie diagnostique thérapeutique par les familles.
Et ça, c'est essentiel. Ça, ce sont vraiment des résultats concrets. On vous remercie beaucoup, docteur Yali Ratou Camara, d'avoir répondu à nos questions. C'est vraiment une question récurrente. On le voit, il y a des personnels de santé qui vont être formés spécifiquement. Il y a la question du lien, de la confiance, de l'acceptation. Et tout ça, on l'imagine, Joseph Larmarange, partout sur la planète, peut-être dans certaines régions du monde plus que d'autres, avec la prise en compte de la stigmatisation dans les différentes approches de santé. Il y a aussi tout un travail sur ce plan. Bien sûr, on parle de tests, bien sûr, on parle de traitements, mais on parle aussi d'entourage, du regard sur soi, et puis de peur de l'avenir, tout simplement.
Oui, alors le stigma et la stigmatisation restent un élément très important qui vont freiner le fait que certaines personnes aillent vers des soins. Et c'est d'autant plus vrai pour les populations les plus vulnérables. Travailleurs du sexe, homosexuels masculins, usagers de drogue, qui sont des populations particulièrement touchées par le VIH, vont être très fortement stigmatisées. Dans certains pays, ce sont des comportements qui sont condamnables, jusqu'à la peine de mort pour l'homosexualité dans certains pays. Et forcément, ça va limiter l'accès aux soins pour ces personnes. Dans le même temps, il y a des personnes qui ne vont pas aller vers des soins parce qu'ils ont peur d'être reconnus ou d'être perçus en tant que tels, et on a une partie de ces populations qui sont cachées.
Et c'est bien pour ça, tout à l'heure, vous parliez de cette stratégie mobile pour les travailleuses du sexe. Aller directement à la rencontre des personnes, ça évite de leur demander d'aller dans des centres de soins et en fait d'être de certaines manières possiblement repérées.
Alors, ça joue plus, elles ont toujours peur d'être repérées quand elles vont en camion. Ça va jouer. L'autre élément qu'on mentionne beaucoup moins, c'est la précarité. Les populations les plus exposées sont aussi les plus pauvres. Et aller dans un centre de soins qui est à 10 km, il faut le temps, l'argent et le transport. Et le fait qu'on insiste parfois plus sur le stigma sur la question de la pauvreté est plus politique. Quand on parle du stigma, à un moment donné, pour les agences internationales, c'est la faute des pays récipiendaires. Quand on va parler de pauvreté, c'est la faute des pays donateurs.
Je ne comprends pas. Expliquez-moi, parce que là, je n'ai pas compris.
Eh bien, Alors, là, je suis sur le côté un peu politique.
Oui, mais c'est important
mais
aussi.
Le stigma, on va pouvoir dire, vous voyez, c'est dans ces pays-là où les gens sont stigmatisants. Donc, ça remet en cause, finalement, ces pays du Sud et pas les pays comme les Américains ou l'Europe qui vont financer les programmes. Si on parle de pauvreté, ce qui est en cause, c'est finalement les rapports internationaux économiques qui sont source de pauvreté, où là, les pays occidentaux seraient plus remis en cause. Et c'est pour ça que souvent, on a beaucoup d'études qui ont été portées sur le stigma et il faut lutter contre le stigma. C'est un vrai problème. Mais il ne faut pas oublier que la lutte contre la pauvreté est aussi un élément récurrent. Et vous parliez des personnels de santé. Le renforcement des systèmes de santé, avoir des personnels correctement payés et avoir qui ont suffisamment de moyens, c'est aussi une manière d'améliorer les choses.
Et aussi avoir accès à cette santé partout, particulièrement dans les zones reculées quand on est loin des capitales. Et ça, les auditrices et les auditeurs le savent bien. Autre illustration à présent, il y a aussi des questions d'acceptation. On va y revenir en partant tout de suite pour le Cameroun, où l'on vous retrouve, Kalise Talom Yomnié, bonjour.
Bonjour, Caroline Paré.
Alors, vous êtes biochimiste et vous êtes membre du collectif REDS, où vous êtes notamment responsable des programmes éthiques, avec au sein de ce réseau la dimension du droit. On vient de l'évoquer très, très rapidement à travers les stigmatisations, mais ce n'est pas simplement ça. Cette dimension du droit qui est mise en avant. Est-ce qu'on peut parler à ce sujet de défis particuliers propres à votre pays, le Cameroun, ou finalement toute une série de traits communs à l'échelle régionale ?
Oui, je dirais par exemple au sujet que vient d'aborder Joseph Lamarange, la question par exemple LGBT, qui est une question que je dirais entre guillemets tabou au niveau du Cameroun. Mais je dirais des choses d'une autre façon, c'est-à-dire, voyez-vous, les autorités en charge de la santé, singulièrement ceux qui sont chargés de la lutte contre le sida, au moment de rédiger les propositions, par exemple, du Cameroun au Fonds mondial, associe les associations ou les représentants des associations des populations clés. En d'autres termes, elles travaillent avec elles à l'ombre.
Oui.
Elles travaillent à l'ombre avec les populations clés, mais évitent d'aborder la question dans l'espace public camerounais, car l'environnement sociétal et législatif ne concourent pas toujours à leur plein épanouissement.
On va dire qu'il y a des fois un double discours. Hein. Il y a un discours quand on est à l'étranger, quand on parle du cœur du métier, c'est-à-dire la santé, parce que la santé, c'est pour tout le monde. Et puis après, il y a la politique, il y a l'opinion publique, et il y a un petit peu la crainte de ce que pourraient penser les uns et les autres, les religieux, les politiques, les communautés, quand on désigne tel ou tel groupe de personnes. Est-ce que vous pouvez nous décrire, s'il vous plaît, Kalise Talom Yomnié, la nature du projet sur lequel vous travaillez ?
Oui, bon, nous travaillons sur beaucoup de projets de recherche en accompagnement des équipes de recherche, mais celui dont je vais vous parler porte sur l'essai NAMSAL qui est... qui signifie New Antiretroviral and Monitoring Strategy in HIV Infected Adults in Low Income Countries, NAMSAL. Dans quel contexte l'étude s'est mise en place? L'étude s'est mise en place dans un contexte où les personnes vivant avec le VIH sous ARV, malgré leur prise de traitement, formulaient quand même des récriminations par rapport aux effets secondaires du traitement. Effet secondaire qui, ma foi, était attribué à la molécule défavirenz contenue dans le schéma thérapeutique du programme national de prise en charge au Cameroun, donc tenofovir, lamivudine et efavirenz 600. Et ces effets secondaires avec une responsabilité non négligeable à la non-observance au traitement d'après les malades et leurs médecins traitants.
Je vais résumer parce que c'est très bien dit de votre part pour des personnes qui suivent, mais peut-être que pour le grand public, c'est plus compliqué. On compare deux produits par rapport aux effets sur la santé, la difficulté à supporter le produit, parce que finalement, quand on prend tous les jours un médicament qu'on ne supporte pas, ben on arrête de le prendre et donc on est en danger. Donc on compare deux produits pour voir lequel, on va dire, est le mieux toléré quand on le prend, hein, quand le quotidien, ça se passe le mieux sur le point de vue digestif, à tout point de vue pour la santé, et aussi comment il marche bien pour protéger le système immunitaire, c'est ça ?
Effectivement.
Voilà, c'est résumé.
Effectivement, c'était ce qui était fait dans l'essai NAMSAL. Et pour mettre en œuvre ce projet, il y avait quand même des questions qui étaient sans réponse au sujet, par exemple, des effets secondaires du dolutégravir sur les hommes et particulièrement sur les femmes en âge de procréer. Mmh. Et nous, en tant que société civile réunie au sein du groupe de travail interassociatif sur la recherche biomédicale, nous avons exigé et obtenu de la part des chercheurs qu'il y ait un suivi très rapproché des participants en âge de procréer et des femmes qui tomberaient enceintes au cours de l'étude malgré, par exemple, la proposition et l'utilisation des moyens de contraception. Mmh. Mais nous étions également conscients, de fait de notre expérience, que les investigateurs très souvent considéraient le consentement comme un instant figé dans le temps, c'est-à-dire à l'enrôlement, alors que le potentiel participant ne saisissait pas toujours tout ce qui devait se faire dans l'étude à cet instant. Nous avons donc à ce moment-là participé à la formation des médiateurs associatifs pour accompagner les investigateurs dans la présentation de l'étude au potentiel participant et à servir également d'intermédiaire pour les participants et les investigateurs, question de faire remonter leurs inquiétudes, leurs désirata. Nous avons participer à la formation des membres de l'équipe de recherche sur le module du consentement éclairé comme un processus. Et en accord avec les investigateurs, nous avons organisé des sessions d'évaluation et la compréhension de l'étude par les participants, déjà enrôlés en vagues de 20 et de 30 participants, après qu'ils aient donné leur consentement à participer à ces sessions.
Alors qu'on comprenne bien, hein, ce consentement, c'est essentiel tout au long du processus de test d'étude. On comprend pourquoi, pour que les gens n'aient pas l'impression d'être des cobayes, qu'on leur retire finalement leur libre arbitre et que ce n'est pas parce qu'on s'adresse à des populations parfois vulnérables, qui ne sont pas allées très très longtemps à l'école, en tout cas du début à la fin, eh bien, elles restent responsables de ce qui leur arrive, y compris quand on parle de santé. Je pense que c'est ça aussi au niveau du résumé, non ?
Oui, oui, oui. En fait, c'est d'accompagner et de permettre à celui qui participe de comprendre l'étude du début jusqu'à la fin et ne pas seulement s'arrêter au moment où la personne donne son consentement pour prendre part à l'étude.
C'est très important. On va poursuivre avec vous, hein, Calista Lomnium. On va parler aussi de ces traitements qui peuvent évoluer avec toutes les questions liées au dépistage, encore une fois, le plus tôt possible. On vous retrouvera au Cameroun, juste après le duo Ablaï Sissoko, Cyril Brotteau, avec ce titre Signola dans Priorité Santé.
Signola, 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 mobeto lo mude. Terra che lo mani, terra so comani. Alina na mungu, tero, tero. Alinga ke la volare Mañana sangarla molukama Ke lo mañi Ke lo yemolu batande Ke lo mañi
Priorité santé sur RFI, lutte contre le sida, les projets de recherche de l'ANRS à l'international, toujours en compagnie de Joseph Larmarange, démographe en santé publique à l'IRD. Et on est toujours avec nous en ligne du Cameroun, Kalis Talomyon, éthique des soins au sein du collectif REDS, donc au Cameroun. Tout à l'heure, vous parliez du consentement, comprendre ce qui se passe quand on participe à une étude, mais aussi pouvoir accéder à certains soins. Là, je parle en particulier de l'accès à l'information et à la possibilité d'aller, par exemple, se faire dépister pour certaines populations. Comment faire changer les choses? Je pense aux adolescents. Est-ce qu'il y a justement des choses à faire bouger, Kalis Talomyon, sur ce sujet au niveau d'un pays comme le Cameroun?
Oui, je pense qu'il y a des choses à faire bouger parce qu'il ne se passe plus de semaines où on apprend que dans nos établissements scolaires, les élèves et des mineurs se livrent à des activités sexuelles en groupe et parfois sous l'effet de la drogue, exposant ainsi les jeunes aux IST, à l'infection par le VIH ou les hépatites. Et je pense, à mon humble avis, qu'il faudrait un dispositif législatif pour permettre à ces mineurs-là d'être dépistés sans qu'on ait le consentement des parents et qu'on puisse leur garantir une prise en charge gratuite. Parce que si on ne le fait pas, il y a de fortes chances que l'on voit encore la courbe du VIH se relever à cause de la propagation liée à cette activité sexuelle précoce auprès de nos jeunes dans les établissements scolaires.
Même si aujourd'hui, il n'est pas question de cours d'éducation à la sexualité dans le cadre scolaire, hein.
C'est vrai que dans le cadre, dans les établissements scolaires, il y a quelquefois des activités qui sont menées, qui abordent des questions de santé. Mais ce qui nous embête, c'est que c'est pas toujours bien d'entendre que des enfants qui sont allés pour étudier, on les retrouve quelque part dans d'autres domiciles en groupe en train d'avoir des rapports sexuels entre eux, parfois sous l'effet des drogues, du tramadol, l'alcool et autres. Et il va sans dire que certainement dans cette activité sexuelle précoce, il y a des risques énormes, n'est-ce pas, de se partager les germes. Et surtout que c'est des rapports sexuels qui se font par groupe, c'est-à-dire que des garçons et des filles dans une même pièce et qui font un peu comme de l'échangisme. Et pour nous, c'est vraiment inquiétant. Et je pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour aider les jeunes, n'est-ce pas, à pouvoir être dépistés sans qu'on demande le consentement des parents, parce que parfois, ça peut être un élément qui les bloque. Et pour faciliter la chose, je crois que si on légifère là-dessus et qu'on leur permet d'avoir une prise en charge gratuite, ça peut vraiment...
Ça peut changer les choses. On perçoit cette dimension d'adaptation à l'offre de soins au public. Et on peut aussi parler, dans le cas du Cameroun, hein, sera notre dernière question sur ce sujet, la mise en place de groupes de parole. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit précisément?
Voilà, dans le cadre d'une étude, les groupes de parole qui sont mis en place, c'est très souvent constitué des participants qui ont été enrôlés dans l'étude pour évaluer leur compréhension de l'étude. C'est parfois l'occasion de libérer la parole pour leur permettre d'échanger sur leur vécu dans l'étude, donc dans l'essai, sur les points de satisfaction, les points de déception, du désaccord et des malentendus. Mais c'est également l'occasion de renouveler l'information qui est contenue dans l'outil d'information et de régler les malentendus. Et ces groupes de parole parfois ont aidé. Dans le cas du NAMSAL, ça a permis d'ailleurs à préparer la transition vers le passage au programme national de prise en charge.
On vous remercie infiniment, hein. Merci beaucoup Kalis Talomyon d'avoir répondu à nos questions. Et on entend encore une fois, hein, Joseph Larmarange, la prise en compte de cette implication communautaire. On parle de groupe de parole, ça peut s'appeler dans d'autres régions des causeries, pour faire passer les messages qui seront compris par tous et par toutes. Encore une fois, on s'adapte.
Oui, alors c'est nécessaire d'avoir ces espaces-là et puis des messages qui vont être formulés. Ce qu'on voit quand même, notamment sur les adolescents, c'est ce qu'on avait déjà évoqué. Souvent, la santé est organisée en silo avec des programmes séparés. On parle de dépistage du VIH, mais ils ont aussi besoin d'un accès à la contraception, d'un dépistage et une prise en charge des IST. Et on a encore un peu de mal à développer des vraies cliniques de santé sexuelle, avec aussi une éducation à la sexualité qui ne soit pas centrée sur les risques infectieux, mais qui soit centrée aussi sur le consentement, les notions de plaisir, une version positive, mais aussi savoir que ce qu'on a encore du mal à prendre en compte, tant au nord qu'au sud, dans tous les pays du monde, c'est aussi déconstruire finalement les représentations pornographiques auxquelles la plupart des jeunes ont accès sur Internet, et de montrer que la sexualité, ce n'est pas ça. Donc, il y a aussi un gros travail de déconstruction des imaginaires de la sexualité.
C'est pour ça aussi qu'on parle d'éducation à la santé sexuelle.
Oui, mais souvent, c'est trop centré sur l'infectieux et pas assez sur le plaisir et le consentement.
Joseph Larmarange, on comprend que ça répond aux besoins, tout ça. On essaye de faire des propositions pertinentes. On peut se demander comment est-ce que ça se passe. Est-ce que les projets, ils sont établis en amont par des chercheurs un peu sur le papier comme ça, ou est-ce que c'est des remontées de la base de la communauté qui dit voilà quels sont nos besoins, voilà quelles sont nos attentes. Là, les scientifiques s'emparent de cette problématique et essayent d'y apporter des réponses. Comment ça se passe?
J'ai envie de dire les deux.
Les deux, je m'en doutais.
Les deux, non, mais vous avez à la fois... Alors, ça dépend aussi du niveau des associations. Il y a des associations qui s'engagent dans des projets de recherche depuis assez longtemps et qui vont être en capacité, du coup, de formuler une demande et qui ont les réseaux pour aller faire la demande. Donc là, on va parler de recherche communautaire. Certaines associations sont regroupées sous Coalition Plus. CIDAction, cette année, a fait ses premières académies de la recherche à Lomé. Il s'agit de faire venir différents chercheurs pour former des membres d'associations pour qu'ils aient un bagage de recherche qui leur permet du coup soit de mieux formuler des questions, soit de mieux participer à des projets.
Il y a eu des ateliers de restitution comme ça de l'expérience communautaire justement pour faire remonter ce que vivent les personnes dans les associations, la société civile, et on fait remonter, on va dire, jusque là où il y a les sous pour que ça revienne ensuite en deuxième retour.
Mais ça, c'est un peu l'idéal. Et il y a pas mal d'autres schémas où du coup, il y a un nouvel outil, il faut mettre en place quelque chose, on va chercher des associations avec qui travailler. Quand les partenariats sont là depuis longtemps, donc on est au-delà de la durée du projet, on arrive à le faire beaucoup plus. Et puis dans certains projets qui sont très descendants, on essaye après, pendant le projet, de refaire de la remontée et recréer du coup quelque chose qui repart de la base vers le haut. Mais ça prend du temps et de l'argent.
Alors, une dernière illustration dans Priorité Santé. On part pour le Sénégal maintenant. Vous retrouvez Fatoumata Anne, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes socio-anthropologue de la santé. Alors, chacun, chacune a son projet ANRS en quelque sorte sous le bras. Est-ce que vous pouvez nous décrire le vôtre?
Alors, je vais vous parler du projet Approche anthropologique de l'échec thérapeutique chez les enfants et adolescents vivant avec le VIH en contexte décentralisé au Sénégal.
Ouais.
C'est un projet qui, en fait, avait pour objectif d'analyser toutes les dimensions socioculturelles de l'échec thérapeutique et des réponses de santé publique dans le contexte de décentralisation au Sénégal. C'est-à-dire tout simplement que on s'est intéressé à toutes ces dimensions non médicales de l'échec thérapeutique dans des contextes décentralisés. Parce qu'on le sait que généralement, dans les capitales urbaines, l'offre de soins est généralement bien huilée, bien configurée et en fait, on peut arriver à prendre à charge les problématiques spécifiques qui s'adressent aux personnes vivant avec le VIH. Mais nous avons fait un constat après plusieurs enquêtes que finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait une très forte proportion d'échecs thérapeutiques chez les enfants et les adolescents traités par ARV et qui sont suivis hors de Dakar.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils arrêtaient de prendre leur traitement, tout simplement ?
C'est-à-dire que non, ils n'arrêtaient pas forcément de prendre leur traitement, mais il y en a qui le prenaient et que ça ne marchait pas. Et quand on parle d'échec thérapeutique, c'est-à-dire que ce sont des enfants et adolescents qui étaient sous traitement et qui finalement ne répondaient plus au traitement.
Et développaient la maladie.
Tout à fait, tout à fait. Et donc, du coup, l'idée, c'était donc de pouvoir identifier les contraintes à l'adhésion au traitement, à l'observance. Et donc, du coup, nous nous sommes intéressés aux trajectoires médicales et sociales, au vécu des enfants dans leur contexte familial et socioculturel, l'expérience et les perceptions de l'échec thérapeutique par les enfants et les familles, et les réponses du programme national et les capacités ou les incapacités du dispositif de soins à faire face à l'échec thérapeutique.
Alors là, vous avez posé les éléments. Maintenant, en termes de résultats, qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous avez observé?
Alors, plusieurs choses. D'abord, parce que tout simplement, quand on analyse les déterminants des échecs thérapeutiques et des succès de traitement, on se rend compte qu'il y a plusieurs choses sur lesquelles il faut que l'on agisse. D'abord, des défaillances structurelles du système de soins. Et ça, c'est-à-dire la disponibilité de personnel de santé qui puisse accompagner efficacement les enfants et les adolescents.
Ça veut dire que parmi les questions de cet échec thérapeutique, y a peut-être un problème de compréhension du traitement, d'éducation thérapeutique, parce que prendre son traitement, ce n'est pas évident, il faut de la régularité, et puis il faut pouvoir faire remonter aussi quand certaines choses ne vont pas, réussir à expliquer finalement tout ce qui se passe.
Il y a de cela, mais avant d'aborder ces questions d'incompréhension du traitement, je voulais juste dire d'abord que l'un des problèmes majeurs, ce sont les ruptures d'approvisionnement en ARV, notamment les formes pédiatriques, et qui conduit à des formes d'adaptation au niveau local, où on va par exemple découper des médicaments pour adultes, et donc ça, c'est un élément qui est problématique. Un autre élément, c'est surtout le fait qu'aujourd'hui, tout à l'heure, je pense que le collègue du Cameroun en parlait sur la nécessité d'avoir des activités communautaires, mais il faut comprendre que la réduction des financements a fait qu'aujourd'hui, toutes ces activités liées aux approches psychosociales, et même l'appui nutritionnel n'existe plus parce que tout simplement les financements ne sont plus suffisants. Et donc du coup, c'est dans ces cadres-là, notamment par rapport à la prise en charge médico-sociale, que l'on prenait en compte tout ce qui était éducation thérapeutique, observant, aide à l'observance, etc. Et aujourd'hui, les médiateurs communautaires se trouvent, les acteurs communautaires se trouvent face à l'impossibilité de pouvoir dérouler ces activités.
Parce qu'on comprend bien que par exemple, en contexte rural, en contexte reculé, on peut avoir le double fardeau, en même temps donc avoir contracté le VIH et avoir un problème de malnutrition structurelle.
Tout à fait, il y a cela, mais et là je rejoins ce qu'évoquait Joseph tout à l'heure sur les vulnérabilités quand on parle par exemple de... Parce qu'en contexte rural, on est face à aussi une double stigmatisation et peut-être des vulnérabilités plus accrues. Mmh. Et ce sont des problématiques que l'approche médicale stricte est incapable de prendre en charge. Parce que tout simplement, la stigmatisation, elle va être à la fois... elle va toucher à la fois les enfants et adolescents, mais aussi leurs parents. Mmh. Et la fréquentation régulière des structures de santé pose des problèmes, notamment quelquefois des problèmes juste de transport, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est il y a, bien qu'on parle en fait de gratuité pour le traitement, il y a quand même le paiement de certaines prestations ou encore des coûts indirects qui sont liés au suivi du traitement et qui posent un problème d'accès aux soins pour des populations touchées par la pauvreté, par exemple.
Évidemment, quand on doit faire 30 km pour rejoindre un centre de santé ou quand on doit faire 30 km pour rejoindre un hôpital régional quand on a besoin de soins particuliers, ça coûte cher. Effectivement, tout ce contrôle de la charge virale qui doit être régulier, qui doit être vraiment bien fait, si on n'a pas ces données-là pour éventuellement ajuster le traitement, prendre les bons médicaments au bon moment, ça rend ça très compliqué.
Tout à fait. Ça rend tout cela très compliqué. Et il y a aussi quelque chose qui a été évoqué, c'est sur la nécessité d'offrir des services intégrés de soins et gratuits. C'est-à-dire tout simplement, aujourd'hui, on doit pouvoir... faire de l'éducation à la sexualité, des offres de services de santé sexuelle et reproductive qui ne soient pas fortement médicalisées, mais qui soient peut-être dans une perspective plus communautaire. Et ça, c'est ce qui permettrait peut-être de prévenir. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit les taux de la prévalence, particulièrement chez les jeunes, on est dans un continent jeune et l'organisation ouest-africaine estimait à près de 75% des nouvelles infections au VIH chez les jeunes. Et donc ça, c'est quand même une vraie problématique qu'il va falloir adresser en termes de prévention des IST, du VIH-SIDA et de l'hépatite, mais aussi du dépistage. Et ça veut dire aussi la disponibilité des outils comme ceux qu'évoquait Joseph et tout à l'heure.
En tout cas, faire appel à toutes les structures communautaires qui existent pour faire passer le relais, faire passer les messages, installer des clubs de jeunes aussi qui puissent en discuter entre eux avec des agents de santé disponibles. On vous remercie beaucoup, Fatoumata Anne, pour toutes ces précisions. On arrive à la dernière partie de notre échange, hein, Joseph Larmarange. on a entendu ces différents projets qui parlent chacune, ces projets chacun de populations clés. Ça n'enlève pas la pertinence de l'information auprès de la population générale. Quand on regarde un pays comme la France, évidemment, la situation est complètement différente. Mais quand même, on a eu vraiment une baisse suite à la crise sanitaire du dépistage du VIH. Et puis alors qu'on avait une tendance générale à la baisse de l'augmentation de cette séropositivité, c'est stable en 2021, 5000 nouveaux cas dépistés. Ça veut dire que la vigilance, elle doit être partout et les efforts, ils doivent être partout. Pourtant, on peut dire qu'il n'y a pas de grande campagne de sensibilisation du public aujourd'hui. Alors, il y a des efforts, mais il n'y a pas quelque chose de massif et de national.
Non, il n'y a plus de grande campagne de sensibilisation massive et nationale. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'épidémie en France, elle touche principalement quand même des homosexuels masculins, des populations vulnérables et des migrants subsahariens. Mmh. Et on sait, grâce à l'étude Parcours qu'a financée la NRS, que la moitié des migrants, des subsahariens en vivant en France avec le VIH se sont infectés après leur arrivée en France. Et c'est là où il y a quand même des nouveautés. Alors, sur le chiffre de baisse des nouveaux cas de non-baisse des nouveaux cas de séropositivité, on est sur un décalage parce que il faut le temps que les gens aillent se dépister. Et la plupart, il y a encore des gens qui se dépistent bien trop tard, qui arrivent tardivement dans les soins. Donc, on ne peut pas dire qu'on a arrêté la baisse des nouvelles infections. Ce qu'on voit, c'est qu'on a des programmes de prévention de type PrEP qui marchent bien chez les homosexuels masculins. Par contre, ça ne marche pas forcément pour d'autres populations. Chez les migrants les plus précaires, il y a des vrais enjeux d'empouvoirment. Je pense au projet Makassi, qui est aussi financé par la NRS et qui est mis en œuvre par une association qui est Afrique Avenir en Ile-de-France et qui vise à trouver des moyens de faire de l'empouvoirment des personnes précaires, c'est-à-dire leur donner les moyens de pouvoir accéder aux services, c'est-à-dire pouvoir faire leur propre choix et se motiver. Il ne s'agit pas simplement qu'une offre soit là. Il faut que les personnes soient en capacité, à ce moment-là de leur vie, de pouvoir s'en saisir. Et les plus précaires, ils ont d'autres priorités. Quand on ne sait pas où dormir ou où manger, on n'a pas le temps de s'occuper de sa santé.
On a beaucoup évoqué ces dernières années, ce sera ma dernière question, l'impact de la pandémie sur les systèmes de santé, la continuité dans la lutte contre les infections. Est-ce que vous avez le sentiment que la page est tournée où on est encore dans les répliques de ce séisme du Covid-19. C'est vrai qu'on a fait moins de tests, il y a eu des ruptures de traitement, il y a eu des systèmes de santé désorganisés, puis il y a eu la peur tout simplement d'aller consulter. Est-ce qu'on a tourné la page ou pas encore ?
Les choses sont en train de se remettre en place. Je pense que la Covid-19 a été, comme le sida en son temps, une épidémie révélatrice de défauts sociaux. Et ce n'est pas l'épidémie en elle-même, c'est les conséquences qu'elle a eues. Ce qu'elle pose, c'est la vraie question de comment on va continuer à financer la lutte sur le long terme, le renforcement des systèmes de santé et comment finalement on peut basculer sur des couvertures santé universelles et réintégrer la prise en charge du VIH, mais aussi des autres pathologies qu'on a besoin. L'hépatite virale, on n'a pas de financement aujourd'hui et c'est un vrai enjeu. Les IST, il faut aussi qu'on puisse y répondre. Donc, je pense que le futur de la lutte contre le VIH, c'est la lutte contre les épidémies de manière plus générale.
C'est ça, on ne pointe pas simplement une maladie ou un risque, mais on pointe un ensemble, la bonne santé en général.
La bonne santé en général. Et puis, qu'on n'oublie pas, la lutte contre la pauvreté, c'est encore sur le long terme ce qu'il y a de plus efficace pour améliorer la santé des gens.
Et on l'a bien compris quand vous parliez de population vulnérable, dans ces causes majeures de vulnérabilité, il y a le problème de l'accès aux soins et il y a le problème de la pauvreté, tout simplement.
Oui, et les plus vulnérables sont aussi les plus précaires.
Et ça, ce sont les politiques et les gouvernements qui ont aussi les clés de ces solutions, pas toujours les médecins ou les acteurs communautaires. Merci beaucoup, Joseph Larmarange,
merci
d'avoir répondu à notre invitation. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise cette émission. Ophélie Lassen, Talim Pouo, Didier Bleu, Laurent Snow avec nous aujourd'hui. Et demain, nous allons parler des parcours de soins pour les personnes vulnérables. Précisément, les stratégies pour lever les obstacles dans l'accès à la santé, en particulier la médiation en santé pour les patients, pour aussi la prise en charge spécifique du VIH-SIDA. Ce sera demain dans Priorité Santé, dès 9h10, temps universel.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner dans les moments difficiles.